18h05, donc nous démarrons. André Dumont m'a dit qu'il n'y avait pas d'annonce, donc on peut démarrer directement sur la question des gratuits. Je pense que vous voyez à quoi cela peut faire référence de façon un petit peu empirique ou pratique. Je vais d'ailleurs commencer justement par toute petite anecdote très lyonnaise. Donc pour installer un petit peu la question dans un environnement courant, commun, quotidien, il y a quelques semaines avait lieu sur Lyon une de ces innombrables manifestations, maintenant plusieurs par jour, n'est-ce pas, organisées par les collectivités locales ou autres, que les communicants appellent événements, puisqu'on en... On n'en a pas fini avec la surenchère du langage pour, en quelque sorte, faire valoir telle ou telle proposition. Tiens, ça me fait penser, événement, est-ce qu'on l'avait traité, événement, comme 10 mots ?
Il n'y a pas beaucoup de mots, événement.
Bon, par se creuser la tête pour l'année prochaine, je me disais qu'événement, ça aurait pu être parfait, parce que c'est vraiment un mot qui a été détourné de son sens d'origine, hein, quand on pense à ce que signifie un événement pour un historien. Et aujourd'hui, dans une agence de communication, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Hein, mais donc là, ça serait vraiment intéressant à creuser, parce qu'on a vraiment deux significations qui sont bien, bien éloignées l'une de l'autre. Voilà, alors lors de une de ces innombrables manifestations, il s'agissait d'une course de côte en vélo, figurez-vous. Bon, je ne sais pas, ça y en a beaucoup qui sont arrivés en haut. Mais donc, ça avait lieu dans la montée Saint-Barthélemy. Là, ça partait de la place Saint-Paul et donc on arrivait à Fourvière. Et passant place Saint-Paul, tout à fait par hasard, je croise Gilles Vesco, qui est le monsieur Vélove de la région, puisque c'est lui qui a lancé en fait cette opération. Il est vice-président de la Courlie. C'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, je dirais on a été sur les mêmes bancs d'école, voilà, je dis nous parce que Jean-Noël Dumont le connaissait aussi. Voilà. Et alors Gilles Vesco s'occupait de cette affaire-là, là, cette course de côte, c'est quand même une idée sacrément farfelue parce que les vélos c'est quand même pas léger, donc il y a des gens qui arrivaient en haut, puis là-haut ils étaient bien accueillis évidemment, avec toutes sortes de, je dirais, de cadeaux ou que sais-je. Voilà. Et alors, on en discutait. Bon, évidemment, ça avait à voir avec la communication de Lyon, la communication du vélo, etc. Et mais finalement, quand il s'agira en quelque sorte de faire un bilan, en vue sans doute d'une nouvelle campagne électorale, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il faudra retenir quelque chose du maire actuel et de ce qui se fait sur Lyon, eh bien ça sera un vélo, évidemment avec un cycliste dessus, ou une belle cycliste sûrement, sur le bas-port du Rhône, réaménagé, etc. Enfin, c'est l'image sans doute qui va, celle du mandat de Gérard Collomb à Lyon. Voilà. Bon. C'est une image de gratuité, parce que le Vélove, eh bien, c'est un gratuit, enfin pas tout à fait, on va en dire deux mots, mais quasiment en tous les cas. Et puis on a justement au fond des espaces publics qui sont rendus à la gratuité, qui ont servi pendant longtemps de parking, d'ailleurs plus ou moins sauvages, etc. Bon bref, qui auraient pu être rentabilisés bien davantage et que l'on a en quelque sorte débarrassé, dégagé, libéré, etc. Pour donc les rendre à la promenade, au loisir, au divertissement, au repos, au jogging, au cyclisme, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui roule, en l'occurrence, aux premières heures de printemps, etc. Voilà. J'évoquais le vélo rapidement. Si on était au Danemark, le pays du bonheur, tel que les économistes et les sociologues l'ont classé premier pays du monde pour le bonheur, eh bien le vélo serait complètement gratuit. Chez nous, il n'est pas tout à fait, parce que si on laissait les vélos gratuits, eh bien on en retrouverait la moitié dans le Rhône, l'autre moitié sans doute dans la Saône, et donc il en resterait plus beaucoup, je dirais, d'utilisables. Alors que effectivement, dans les pays qui ont eu davantage sans doute de culture civique, c'est le cas des pays nordiques, eh bien c'est la pratique du vélo existe depuis longtemps et les vélos sont alors pour le coup totalement gratuits. Ils n'ont pas de port d'attache. Ce sont bel et bien des vélos publics qui ont été financés par les collectivités. Et ils sont laissés à la disposition dans les rues. Chacun emprunte en descendant de chez lui un vélo qui est sur la bordure du trottoir parce qu'il a été laissé là par donc le cycliste précédent. Il prend le vélo, il fait son trajet et puis il s'arrête à l'endroit où il a besoin de s'arrêter. Il pose le vélo et puis le suivant prendra le vélo, bon, etc. Donc il n'y a pas comme chez nous des stations en général tellement bourrées qu'on ne peut pas garer son vélo. Il faut chercher d'autres stations. Bon, bref. Mais on voit bien que finalement, chez nous, tout cet arsenal eh bien, est lié donc à des problèmes de fiabilité, etc. Et qu'au fond, l'idéal eh bien, serait bel et bien que le vélo soit gratuit. Et en tout état de cause, il ne coûte pas très cher. Et on est bien dans cette démarche-là. Néanmoins, deuxième remarque en introduction, la première était parfaitement empirique, une remarque un petit peu moins empirique, en fait ce mouvement de la, je dirais des gratuits, hein, donc Vélove, les journaux gratuits, un certain nombre de choses, tout ce qui relève des, comment pourrais-je dire, de bases gratuites, sur, par exemple sur Internet, etc. Enfin, bon. On détaillera un petit peu cela tout à l'heure. Tout cela va à l'encontre d'un autre mouvement qui est celui de la marchandisation. C'est-à-dire que on voit bien que dans notre société, eh bien, se développent d'un côté des services gratuits ou apparemment gratuits, mais que par ailleurs, eh bien, notre monde économique est travaillé par le démon de la marchandisation qui consiste en fait à faire passer des activités du domaine social vers le domaine économique, en quelque sorte à décaler des activités, à dénaturer peut-être des activités, je n'ai pas exactement le terme qu'il faut employer, et donc des activités qui répondaient pour nous, par exemple, français, comme l'éducation, la santé, le transport ou que sais-je, à des services donc gratuits, parce que ce sont des services publics pour les usagers, bon, etc., etc., et qui donc sont aujourd'hui de plus en plus entrepris par des agents économiques qui donc les transforment en marchandises. Processus de marchandisation et donc vont les faire payer à des consommateurs qui auparavant eh bien, en usaient gratuitement. Alors ça ne veut pas dire que ça se passe d'un coup, qu'on a un basculement complet, total, mais donc on voit bien par exemple que dans le domaine de l'éducation, eh bien, à la marge, eh bien, avec le développement d'officines donc, qui permettent l'accompagnement des enfants, le suivi scolaire, etc. Il y a une génération, on parlait de cours, attendez, comment ça s'appelle, les cours donc, que recevaient certains enfants qui avaient besoin de soutien, des cours de soutien ou des cours privés, je ne sais plus. Pardon ? Cours particuliers, voilà, cours particuliers, alors qu'aujourd'hui, ces officines sont bien, enfin je dirais, ont largement dépassé justement ce qu'on appelle cours particulier. Le cours particulier, c'était dispensé par un professeur en général de l'établissement qui donnait quelques cours du soir ou éventuellement par des étudiants, alors que ces officines offrent des services clés en main, donc qui consistent à récupérer les enfants à la sortie de l'école, à leur faire faire leurs devoirs, par ailleurs, bien entendu, à apporter des cours de soutien, enfin bon, à les garder tant que les parents ne sont pas rentrés, éventuellement à mettre la soupe sur le feu, j'en sais rien. Enfin bon, on peut imaginer comme ça des prises en charge donc complètes, qui sont évidemment des services vendus, hein, commercialisés. Voilà. On voit bien aussi de quelle façon, au niveau de la santé, eh bien, il y a ce phénomène justement de marchandisation, que ce soit dans la parapharmacie, que ce soit dans du paramédical, comme l'ergothérapie ou que sais-je. Et aujourd'hui, eh bien, il y a parmi nous un certain nombre de gens qui se soignent. Donc, avec des services payants. Et donc, on n'est plus, je dirais, dans la totale gratuité. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a, donc de ce point de vue-là, eh bien, en quelque sorte, des mouvements inverses, donc dans la société, dans l'économie, et que les gratuits qui correspondent à une certaine démarche, eh bien, sont en quelque sorte contrebalancés par la marchandisation. Voilà. Level Love, alors, je dirais, les gratuits, eh bien, sont constitués de toute une série, je reviens en gratuit, de toute une série de propositions. J'ai évoqué rapidement Level Love. Les quotidiens, qu'on nous met dans les mains le matin, même si on n'en veut pas, difficile d'y échapper, n'est-ce pas? Il faut passer à travers les mailles du filet quand en face de nous on a ceux qui distribuent les 20 minutes, le métro, etc. etc. Donc pas facile d'y échapper. D'ailleurs en général, les jeunes qui distribuent ces journaux ne comprennent pas qu'on ne prenne pas les journaux. C'est aberrant puisque c'est gratuit, etc. J'évoquais les sites internet avec en particulier cette encyclopédie à laquelle contribuent tous les internautes qui le souhaitent, qui le peuvent, etc. Et qui finalement relève justement de la sphère de la gratuité puisque elle n'est pas payante dans son usage. Et finalement, elle n'est pas financée par autre chose qu'un apport, une participation libre de la part des internautes, etc. Le domaine des radios libres aussi est un domaine justement qui, en tous les cas au départ, était un domaine en quelque sorte de gratuité. Moins évident. On pourrait, en tous les cas, tous ces domaines-là correspondent à des biens ou à des services qui ne sont pas payés par le client final. Voilà. Ce qui les réunit, c'est qu'ils ne sont pas payés par le client final ou à peine. Par contre, on établit rapidement une distinction entre certains biens et services qui sont effectivement complètement gratuits et d'autres qui en fait sont payants, même si en quelque sorte leur financement est caché relativement à dehors pour le client final. Et encore, leur financement se fait essentiellement par la publicité, c'est le cas des radios libres, c'est le cas par exemple sur Internet, de grands serveurs comme Google, par ailleurs des réseaux sociaux comme Facebook, etc. Et donc là, c'est le cas finalement des quotidiens dont je parlais tout à l'heure, les 20 minutes, etc., etc., métro, qui sont financés par la publicité. Et donc, ce qui nous apparaît comme gratuit ne l'est pas autant, puisque ce sont des biens et services qui fonctionnent dans la sphère économique, qui sont bien financés. Le coût est assuré, par des revenus, qui certes ne sont pas ceux du client final, sauf qu'en dernier ressort, dans le vaste circuit économique, c'est bien le client final qui par ailleurs paye aussi la publicité, parce que il la paye en achetant les produits dont une quote-part va à la publicité. Mais finalement, les gratuits de ce point de vue-là, relèvent sans doute d'une stratégie économique. On ne va pas s'y arrêter trop longtemps, ce n'est pas très intéressant. Reste que ça pourrait intéresser je suis persuadé qu'il y a des analyses de type marketing commercial autour de cela. Ça correspond finalement à une stratégie, me semble-t-il, marketing commercial, faute de débouchés. Il me semble que, par exemple, les quotidiens gratuits, c'est une stratégie pour en quelque sorte répondre à la crise du débouché. On ne peut plus vendre de presse écrite, elle se vend très difficilement, ça n'est plus un produit entre guillemets qui intéresse donc les consommateurs de nos sociétés, voire la crise de la presse. La presse ne cesse, de se restructurer, d'essayer de trouver des moyens, etc. On a l'impression que des grands quotidiens comme Le Monde, par exemple, ne cessent, d'essayer de passer en quelque sorte d'étape en étape qui sont tout autant de crises, de capital, de leadership, etc. Si on trouve une assise qui est bien difficile à trouver. Et donc devant cette crise du débouché qui se caractérise essentiellement par la baisse du lectorat, ceux qui veulent faire du papier ou en quelque sorte ont l'idée de faire du papier ou se disent au fond il y a quand même un marché à trouver, mettent en place une autre tactique qui consiste en fait à contraindre le débouché, vous voulez pas l'acheter, mais de toute façon vous le prenez, même si ça vous plaît pas, c'est difficile de passer à travers les mailles du filet. Donc là, le débouché est assuré puisqu'on vous le met directement dans la main, vous avez à peine la possibilité de le refuser. Et puis on sépare, je dirais, le débouché de son financement, et le financement on l'assure par ailleurs. On n'est pas obligé, je dirais, de, en l'occurrence, un bien ou un service peut très bien en quelque sorte être utilisé par quelqu'un et par ailleurs financé par quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe par exemple dans la consommation des ménages, etc. Ce que je paye pour mes enfants, en l'occurrence c'est mes enfants par exemple qui le consomment, c'est moi qui le paye. Bon, donc ça, et puis ça arrive dans bien d'autres cas et couramment finalement dans le système économique, qui est de ce point de vue là une séparation, une distinction entre l'utilisateur et le payeur. Et donc ce qui nous apparaît finalement comme gratuit est, finalement n'est pas si gratuit de ça, et on s'aperçoit assez vite que donc les gratuits, eh bien, relèvent davantage d'une stratégie commerciale propre à une société d'abondance, saturée par l'offre, etc., etc. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, eh bien, on peut se demander si les gratuits ne sont pas, au fond, que la guerre commerciale continuée par d'autres moyens, pour plagier une phrase que vous connaissez bien à propos de la guerre, et au fond, comme je dirais, on a épuisé un certain nombre de tactiques ou de stratégies commerciales, et bien la nouvelle stratégie, c'est de donner les objets plutôt que de les vendre. Voilà. Et donc, si c'était le cas, eh bien, on n'aurait pas grand-chose d'autre à dire, sinon maintenant de faire un cours de marketing pour étudier en détail qu'est-ce qu'il est possible de donner, et comment est-ce qu'on peut financer cela par ailleurs, etc. On dirait qu'il y a une sacrée performance à derrière, parce que quand on voit justement, par exemple, la façon dont les réseaux sociaux sont un modèle économique et financier ultra performant, ultra profitable, on s'aperçoit que effectivement c'est pas du bricolage, hein. Il y a vraiment, enfin, les réseaux sociaux en particulier, et puis les grands serveurs, etc., drainent l'argent d'ailleurs qui manque à la presse aujourd'hui, et donc vous le savez tout autant que moi, des moyens financiers gigantesques, et cela parce que, contrairement à la presse, etc., eh bien, ils répondent en fait à des exigences marketing qui sont beaucoup plus pointues que celles que peuvent satisfaire justement la presse courante, etc. Les réseaux sociaux en particulier permettent de savoir exactement qui est-ce qui est derrière son écran en analysant, je dirais, l'ensemble de ses messages, etc. Et donc de ce point de vue-là permettent un ciblage marketing tel que aucun spécialiste du marketing n'en a rêvé avant, en l'occurrence, l'arrivée des réseaux sociaux. Parce que là, on a, je dirais, un ciblage d'une personnalisation incroyable, une dimension analytique que permettent ces outils des supports comme ceux de la presse, etc., permettaient un certain ciblage parce que effectivement on savait à peu près qui lisait Le Monde, etc., mais ça restait relativement général comme ciblage, ça correspondait à des segments relativement larges, alors que maintenant effectivement les réseaux sociaux, etc., répondent à une segmentation extrêmement fine, au point que quand on ouvre effectivement un certain nombre de, maintenant on le sait bien, un certain nombre de serveurs, etc., et bien les publicités qui arrivent vous sont destinées directement, elles ne sont pas forcément les mêmes que celles que votre voisin découvrira sur son écran en utilisant le même serveur. Hein. Donc là, on voit bien effectivement en quoi est-ce qu'on est, on est tout de même sur des modèles parce qu'ils sont entre guillemets gratuits, nous semblent à la limite, au premier regard, relativement peu conséquent, c'est superficiel, etc., et qui en fait sont d'une efficacité redoutable. Ce sont des modèles économiques qui sont nouveaux, qui sont récents et qui sont d'une efficacité redoutable, et qui très certainement, dans les années qui viennent, vont damer le pion à bon nombre, c'est déjà le cas sur Internet, à bon nombre de services payants, par exemple, et au fond, à une économie qui fonctionnait davantage sur effectivement un échange payant, enfin si vous voulez, par le consommateur final, alors que là on a des modèles qui sont beaucoup plus ajustés, beaucoup plus affûtés. Voilà. Donc Alors, simplement, est-ce qu'on est simplement là dans du commercial, dans du marketing, aussi affûté soit-il, ou est-ce qu'au fond, ces nouveaux modes de fonctionnement, qui sont en particulier des modèles économiques performants, eh bien, est-ce que ces nouveaux modèles ne reposent pas sur des attentes, sur des références, sur un système de valeurs particulier que ces entrepreneurs malins font vibrer chez leurs clients. C'est-à-dire que, est-ce que la gratuité, c'est uniquement une stratégie marketing, ou est-ce qu'au fond, ça ne révèle pas quelque chose qui est en quelque sorte inscrit profondément en chacun d'entre nous, la soif de la gratuité, et qui, de ce point de vue-là, a à voir, avec une dimension essentielle, en nous, en l'humain, etc. Voilà. Et c'est un peu l'enjeu de la question ce soir, parce qu'à nouveau, s'il s'agit simplement de passer en revue les gratuits, puis de passer d'abord, je serais bien incapable de le faire, de vous faire de la stratégie marketing pour montrer comment ça fonctionne, etc., au-delà de ce que j'ai pu dire. Mais ce qui nous intéresse, c'est au fond de savoir si les gratuits ne sont pas symptomatiques de quelque chose de plus essentiel en l'homme, qui serait précisément la gratuité. Et de ce point de vue-là, les commerciaux à travers les gratuits feraient coup double. Parce que d'un côté, ils mettraient au point un super modèle économique, et puis deuxièmement, ils s'adresseraient au fond, en chacun d'entre nous, à cette soif de gratuité qui, effectivement, correspond à quelque chose. La gratuité, pour nous, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais est connotée en termes de valeur. On parle en général de gratuité à propos de l'œuvre d'art, et ce n'est pas précisément pour la dévaloriser. Et parce qu'au fond, on voit dans l'œuvre d'art le fait que ça n'est pas un instrument, que ça n'est pas un moyen qui est appliqué, à une fonction précise, limitée, réductrice, etc., mais que l'œuvre d'art, dans sa fécondité, dans sa richesse, est susceptible de nous ouvrir à bien des dimensions, que à travers son caractère inépuisable, elle nous parle de ce que nous sommes pour l'essentiel, et pas uniquement à travers telle ou telle fonction, etc. Et c'est cela que nous appelons justement la gratuité de l'œuvre d'art, c'est-à-dire cette capacité finalement à dépasser des mécanismes socio-économiques qu'il nous faut bien assurer et assumer en un certain sens, mais qui n'épuisent sans doute pas ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Voilà. Donc la question que l'on peut poser, c'est de savoir si il n'y a pas une gratuité plus essentielle que celle que nous appelons aujourd'hui la gratuité des gratuits, qui ne sont pas si gratuits que ça comme on vient de le voir. Voilà. Alors, pour réfléchir à cette question, je vous propose trois étapes. On va en fait partir de la propriété, parce que finalement, on vient de le voir, cette question de la gratuité, elle n'est pas commode, puisqu'on s'aperçoit que les gratuits ne sont pas gratuits, en fait. Sauf cas exceptionnel, je me posais la question de savoir ce qui restait comme radio gratuite parmi les radios libres, parce qu'en fait, ce sont toutes des radios publicitaires, et alors il en reste quand même très très peu, quand on va. D'ailleurs, c'est vraiment quand même quelque chose d'incroyable. Quand on écoute des radios, on passe sur la bande FM, etc., on se dit, en fait, c'est quelque chose de formidable, les radios libres. Ça a été lancé, alors c'est quand, je crois, en 1981, par François Mitterrand, en 1981. Bon, c'était quelque chose de formidable. Libérer la radio, permettre au fond des initiatives, création de radios, etc. Quand on voit à quoi ça a servi, au fond, on a sur la bande FM, chacun sur son créneau, qui est extrêmement d'ailleurs proche du précédent, parce que donc on est sur le goût moyen, et il faut absolument goût musical moyen, et donc il faut absolument faire le taux d'audience pour avoir la pub, c'est toujours donc le même système, etc. Et donc au fond, ce sont des radios pubs pour l'essentiel, des radios vraiment libres, au sens où en quelque sorte elles s'exonèrent en quelque du modèle économique. Ce sont des radios, d'amateurs, ça s'entend en général d'ailleurs, parce que comme on n'a pas les moyens de payer des animateurs un peu à la page, etc. C'est pas extraordinaire au niveau de l'animation. Il y a des E, il y a des blancs, quelquefois ça coupe, comme par exemple sur RCF. RCF est quand même une radio super pro, mais parfois ça coupe, on dit oula, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais donc RCF est par exemple une radio voilà, quasiment libre, puisque alors les, je dirais les auditeurs financent, enfin apportent un financement, mais bon, c'est vrai qu'il y a. Mais on a l'impression quand même, si vous voulez, que dans la dimension, on sort un peu, en tous les cas, de ce modèle performant dont je parlais il y a quelques instants, c'est-à-dire du financement par la publicité, etc. Puis on en connaît quelques-unes, hein, des radios qui sont en général des radios anarchistes, etc., donc qui émettent dans des petits trous et tout. Moi j'en connais une comme ça, bon, c'est assez drôle. Voilà. Radio Zinzine, une radio qui s'appelle comme ça, c'est quand même extraordinaire, mais c'est pas sur la région lyonnaise. C'est sur les Alpes du Sud. Voilà. Alors, donc la propriété. Voilà, on va, si vous voulez, examiner la question de la propriété, parce que pour essayer de comprendre un peu cette notion de gratuité, il faut bien partir de là. Ça sera le premier point, généalogie de la propriété, naissance de la propriété. Deuxième étape, critique de la propriété. Deuxième étape, parce que, ben, évidemment, la gratuité, c'est la critique de la propriété. Et puis, troisième étape, la gratuité, comment est-ce que je l'ai appelée ? Incognito de l'être. Je l'ai appelée comme ça, c'est pas si compliqué que ça, on verra ça tout à l'heure. Mais ça renvoie à la dimension plus essentielle que j'évoquais rapidement il y a quelques instants dans l'introduction. C'est la gratuité en tant que, en l'occurrence, elle traduit, elle évoque, elle renvoie à une dimension d'être davantage sans doute que d'avoir. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez, la gratuité, dès qu'on en parle, si vous voulez, on traduit ça en termes d'avoir. On ne paye pas. D'ailleurs, en France, on est champion par rapport à ça. Hein. C'est assez drôle, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment une question pour nous, les Français, la gratuité. Parce que si les Américains, vous mettriez un sujet comme ça, ils diraient, mais ça n'existe pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout est payant aux États-Unis, etc. Et c'est normal que tout soit payant. Alors que nous, on a, je dirais, une mentalité de gratuité, qui est en particulier une mentalité d'usager, de service public, bon, etc. Ça vient de notre état-providence extrêmement volumineux, développé, idéologique aussi, etc. Et donc, qui fait que c'est normal que ça soit gratuit. Et puis, je dirais, quand il faut payer, même quand on a les moyens, et c'est assez drôle de voir ça, on essaye d'y échapper, etc. On voit ça assez régulièrement dans des... Je dirais, quand on organise des choses, quand on est un peu organisateur de choses, on s'aperçoit qu'il y a des gens, par exemple, pour des colloques ou autres, qui se débrouillent pour pas payer l'entrée des colloques, enfin des trucs comme ça, quoi. Bon, bref, c'est franco-français, ça. Hein. C'est-à-dire, au fond, c'est même... alors, c'est par exemple, on pourrait dire que c'est une image de marque de ne pas payer. C'est-à-dire que, je sais pas, dans un colloque, dans une réception, que sais-je, l'invité de marque, on va pas le faire payer, quoi. Enfin, il va pas payer, alors qu'à la limite, c'est lui qui a le plus de moyens. Mais, enfin, c'est certainement lui qui a le plus de moyens, mais c'est le seul qui payera pas, parce que, évidemment, voilà. Hein. Donc ça serait malvenu de payer. Donc c'est justement ce que je veux dire par là, c'est très empirique ce que je suis en train de vous raconter, c'est un peu dérisoire, mais ce qui est intéressant, c'est que ça indique, si vous voulez, aussi, ça montre bien qu'il y a des mentalités par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que par exemple, il y a par rapport au monde américain, par rapport à la mentalité américaine, il y a quelque chose de très très différent par rapport à ça. Hein. On a une mentalité qui est très différente de la mentalité américaine. Voilà. Généalogie de la propriété. Au fond, la justification de la propriété, me semble-t-il, si je me trompe complètement, vous me le direz, hein, donc tout à l'heure, il me semble que la justification de la propriété appartient à la modernité, vraiment à la modernité, comme si, au fond, l'avènement de la bourgeoisie, donc quand je dis la modernité, je pense au XVIIIe siècle, etc., modernité qui est presque, qui est vraiment advenue, comme si l'avènement de la bourgeoisie, la classe des affaires, imposait qu'on coulât la propriété dans le marbre. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez, la propriété soit en quelque sorte pleinement reconnue pour que, effectivement, le monde des affaires, porté essentiellement par, je dirais, le monde bourgeois, eh bien, puisse s'appuyer sur cette pierre angulaire qu'est la propriété. Et il me semble que, en tous les cas, si on regarde la question, je dirais, à partir de l'Ancien Régime, la conception de la propriété dans l'Ancien Régime est très différente très différente. Et que, au fond, on est vraiment propriétaire à partir de la Révolution française. Bon, complètement caricatural ce que je raconte, évidemment. Mais voilà, il y avait besoin d'une révolution pour créer des propriétaires. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, au fond, la propriété, eh bien, auparavant, vient moins d'un droit que de la force, voire de la violence, c'est-à-dire du monde féodal. Mais donc, de l'honneur, du courage et de l'honneur. C'est-à-dire que la propriété, pour l'essentiel, appartient à qui ? À la noblesse. La noblesse, en général, ceux et celles qui portent les armes de la famille, etc., l'ont un petit peu oublié que la noblesse descend de la féodalité, c'est-à-dire, du combat. Du goût des armes, du goût pour les armes, de la joute, du jeu de la force, etc. Pendant longtemps, bien qu'elle ait été régulée par l'Église, qui imposait la trêve de Dieu, des jours chômés, enfin bon, toute une série de barrières pour empêcher, la société de ne tourner que sur la guerre, etc. Mais pendant bien longtemps, la féodalité a été justement ce jeu de la force qui était en même temps, bien entendu, le jeu du courage, de l'honneur, etc. Société d'honneur, hein, d'ancien régime, etc. Elle ne sort pas de n'importe où. C'est la capacité à affronter, soit sous forme de joute, soit vraiment sur, en quelque sorte, le champ de bagarre, le champ de bataille, etc., des ennemis, en chair et en os, etc., etc. Et donc, cette propriété acquise et transmise, acquise en quelque sorte par la force, c'est-à-dire par le courage, et transmise dans la famille, en fait, c'est une propriété qui est complètement indisponible. Parce que, précisément, elle appartient à la famille. Et on le voit encore, par exemple, dans quelques familles qui possèdent, par exemple, depuis plusieurs générations, des propriétés importantes de famille, etc. Ils sont vachement embêtés avec ça. Parce qu'il faut qu'ils les gardent. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, je pense à certains cas, si vous voulez, de gens qui, par exemple, on dit depuis 5 siècles, ce château est dans la famille. Attendez, on ne va pas vendre le château aujourd'hui, parce que là, si vous voulez, ou alors vraiment, ça veut dire que, si vous voulez, on est totalement déloyal, on est vraiment, je dirais, c'est un divorce avec l'honneur familial, enfin tout ce qu'on veut, quoi. On imagine bien, si vous voulez, pour des gens qui sont descendants de grandes lignées, etc., voilà, se séparer, si vous voulez, d'un bien comme ça, alors que pendant des générations, les gens ont transmis ça, etc., puis là, on coupe, on vend, etc. C'est complètement aberrant. Et d'ailleurs, on voit bien de ce point de vue-là la contradiction justement des valeurs, quoi. C'est-à-dire que la propriété d'ancien régime n'a pas grand-chose à voir avec la propriété moderne, la propriété bourgeoise, qui est en particulier, on va le voir dans quelques instants, la propriété d'aliénés, etc. Au fond, la propriété d'ancien régime est une propriété inaliénable, si vous voulez, inutilisable. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est une propriété ostentatoire, qui ne sert pas à faire de l'argent. Il y a des chasses, il y a des châteaux, on fait des fêtes, on se ruine. Ça c'est l'ancien régime. D'accord ? On n'en est pas encore aux temps bourgeois, qui sont des temps, si vous voulez, d'accumulation, des temps, par ailleurs d'investissement, des temps de rendement, etc. On est dans un tout autre registre de valeurs. Et donc la propriété d'ancien régime, elle est indisponible. Donc c'est pas une vraie propriété, c'est autre chose qu'une propriété, en tout le cas au sens où on l'entend nous. Parce qu'on ne peut rien en faire, en quelque sorte. La seule chose qu'on puisse en faire, c'est la protéger. Si on la protège pas, on est un couard, on ne correspond pas au code de l'honneur, etc. Et puis alors, si jamais on commence à s'en séparer parce qu'on a des besoins, alors ça c'est la catastrophe, quoi, c'est le déshonneur. Et c'est en partie ce qui est arrivé à la noblesse française, bouffée progressivement par la bourgeoisie qui n'arrivait plus à entretenir ses toitures de château, enfin tout ce qu'on veut, etc. On voit bien, si vous voulez, Alors, effectivement, la propriété apparaît avec la modernité. Peut-être que le premier penseur de cela, c'est l'ami Locke, au XVIIe siècle. Locke justifie de façon extrêmement précise, j'ai apporté un petit texte que je vais vous lire rapidement, une justification rationnelle de la propriété. Il explique d'où ça sort, d'où vient la propriété. Alors je vous lis un petit texte qui est tiré d'un ouvrage de Locke, le second traité du gouvernement civil de Locke, fin du XVIIe. Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, gratuité en quelque sorte, hein. Chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne. Vous allez voir que c'est un raisonnement très serré en quelques lignes. Voilà. Donc toute la, si vous voulez, les créatures, la terre appartient, c'est très intéressant parce qu'on part de là, hein. La terre appartient à tous, les créatures appartiennent à tous, etc. Mais il y a quand même une chose qui m'appartient, c'est ma propre personne, dit Locke. Hein. Alors, aucun autre que lui ne possède un droit sur elle, sur ma propre personne. Le travail, soit en passant, c'est une pensée là, vous voyez, qui est qui exclut complètement l'approche théologique de la créature, etc. Hein, l'homme est son propre, en quelque sorte, est sa propre source, son propre maître, etc., etc. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, lui appartiennent en propre. Comme mon corps m'appartient, comme ma personne m'appartient, donc mon travail et l'ouvrage de mes mains m'appartiennent. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a fourni et laissé. Et il y joint quelque chose qui est sien. Par là, il en fait sa propriété. Cette chose étant extraite par lui de l'état commun, donc en quelque sorte dans la gratuité générale, où la nature l'avait mise, et où les choses étaient tout autant à mon voisin qu'à moi-même, etc., son travail, donc mon travail, lui ajoute quelque chose qui exclut le droit commun des autres hommes. Donc ce qui va faire que certains objets deviennent propriété, alors que au départ, on va dire dans l'état de nature, parce que c'est toujours cette référence pour ces penseurs, au départ, si vous êtes dans un état initial en quelque sorte, hein, tout à fait hypothétique, mais dont on a besoin pour penser, pour fonder les choses étaient complètement communes, les biens étaient complètement communs, et à partir du moment où je m'en saisis pour le travailler, le travail, eh bien, c'est en fait la transmission à la chose de mon propre être. Or, comme je suis propriétaire de moi, eh bien, je suis aussi propriétaire de la transmission de moi-même à la chose, donc je suis propriétaire de la chose. Car ce travail étant indiscutablement la propriété de celui qui travaille, aucun autre homme que lui ne peut posséder de droit sur ce à quoi il est joint, c'est-à-dire sur la chose, du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres est en quantité suffisante et d'aussi bonne qualité. Eh bien, sympathique, Locke, de rajouter ça à la fin. C'est un peu nécessaire, si vous voulez, hein, pour ne pas faire croire que la propriété, c'est un accaparement universel des choses par quelques-uns, ou un accaparement excessif, pardon, des choses par quelques-uns au dépend des autres. Donc Locke rajoute, c'est possible à partir du moment où il en reste suffisamment pour les autres. Voilà. Mais il a posé donc ce raisonnement, finalement, qui est très simple, qui rationnellement, je dirais, est tout à fait valable. Enfin, ce sont des arguments qui sont tout à fait recevables, etc. Voilà. On a là derrière toute la philosophie du travail, par exemple, qu'on va retrouver chez quelqu'un comme Hobbes, qui fait l'analyse du travail comme un processus d'humanisation, puisque l'homme, et donc là, ça n'est pas, je dirais, c'est moins pour fonder la propriété que pour traiter, si vous voulez, du processus d'humanisation de l'homme. L'homme, à travers le travail, eh bien, s'affronte à une réalité extérieure à lui-même, et en quelque sorte, il humanise cette réalité. En humanisant cette réalité, eh bien, c'est l'occasion pour lui de développer ses dons, ses compétences, et puis par ailleurs de vérifier, en quelque sorte, dans l'objet fini, de se connaître dans l'objet fini, l'objet lui renvoyant l'image de sa propre humanité. De son dont il est capable et donc de sa véritable identité comme travailleur, comme capable de ceci ou de cela, etc. Donc là, on a, je dirais, une pensée qui est une pensée moderne qui va se développer de façon importante, qu'on va retrouver par exemple chez Hegel, etc. Voilà. Alors, cette pensée, eh bien, évidemment, elle va être concise. Vous voyez, là, il y a quelque chose en quelque sorte de radical, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai travaillé quelque chose, c'est à moi, c'est pas à l'autre. Donc on a vraiment un interdiction et une individualisation de la propriété. C'est-à-dire que la propriété n'est plus le champ commun d'une famille, n'est plus portée par une communauté, etc. Elle est individualisée. Hein, voilà. Et donc, on va à ce moment-là, très simplement, donc trouver, je parlais tout à l'heure de la propriété qui naît avec la Révolution française, je m'arrête un instant pour rappeler justement la façon dont la propriété est consignée dans la Déclaration donc des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans deux articles. Hein, dans deux articles, donc je le rappelle rapidement, l'article 2, vous connaissez ces articles, Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et dans ces droits naturels, eh bien, il y a la liberté, deuxièmement la propriété, ensuite la sûreté et la résistance à l'oppression. Il y en a quatre pour la déclaration, et donc la propriété la deuxième. C'est un droit naturel. D'ailleurs, c'est exactement ce que fonde Locke. Locke dit la propriété est un droit naturel. Parce qu'en fait, on l'acquiert, en fait, c'est un droit naturel pour Locke, parce qu'on l'acquiert avant, dans le processus, je dirais, de la généalogie politique ou le processus politique. Pour Locke, ça vient avant même la société, parce que l'homme dans la nature est bien obligé de travailler pour se nourrir, etc. Donc avant même, je dirais, de poser la société, il y a déjà le travail, parce que l'homme en a besoin pour satisfaire ses besoins, etc. Donc la propriété est une affaire naturelle, en quelque sorte, si vous voulez, avant même donc le fondement de la société, enfin le fondement en tous les cas du politique, du contrat social, etc. Article 17. La propriété est un droit inviolable. Alors là, bon, vous connaissez cet article sans doute presque par cœur, mais je dirais, on peut l'entendre une fois ce soir, c'est bien nécessaire. Il est d'une radicalité incroyable, cet article. La propriété est un droit inviolable et sacré. Alors, on voit bien que, effectivement, il y a eu un déplacement de sacré à l'époque. Et effectivement, le sacré n'est plus où il était auparavant, n'est-ce pas? C'est la propriété qui est la nouvelle religion, en quelque sorte. Nul ne peut en être privé. Si ce n'est lorsque... Alors, nul ne peut en être privé, on pourrait se demander ce que ça signifie, en l'occurrence, que, en quelque sorte, on partage pour que tout le monde, je dirais, une propriété. C'est sans doute pas cela. Ça renvoie plutôt... Nul ne peut en être privé, c'est-à-dire, nul ne peut être spolié de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, et sous la condition... d'une juste et préalable indemnité. Donc ça, c'est l'affaire de l'expropriation pour le bien commun que vous connaissez, bon, etc., etc. Voilà. Alors évidemment, après, je dirais, ce type de position, pas étonnant que quelqu'un comme Marx ait fait, si vous voulez, une analyse bourgeoise de la Révolution française, en disant, au fond, la Révolution française, c'est l'avènement donc de la bourgeoisie, donc avec au cœur, donc je dirais, de ce processus, justement, la propriété qui est bel et bien la pierre angulaire, je dirais, de la catégorie bourgeoise comme catégorie du développement économique, de la puissance économique, puisque pour, en l'occurrence, que le développement économique soit possible, eh bien, il faut que, au sens en particulier industriel du terme, etc., au sens financier industriel du terme, et non plus au sens terrien, il faut que la propriété soit disponible. Parce que c'est, je dirais, la condition du marché, hein, le fait que les marchés se développent, qu'ils se fluidifient, etc., et qu'on passe de la foire au véritable marché, et pourquoi pas tel qu'on les connaît aujourd'hui, avec un clic, on fait le tour de... les milliards font le tour de la Terre, n'est-ce pas? Les cargaisons de blé s'achètent et se revendent donc des dizaines de fois entre le moment où ils partent d'un endroit et le moment où ils arrivent, etc. Hein, donc là, je dirais, la constitution et le développement des marchés, etc. Il faut que donc la propriété soit complètement disponible. Et pour qu'elle soit complètement disponible, eh bien, il faut qu'elle soit détenue par un individu qui peut aliéner sa propriété n'importe quand, n'importe comment, comme bon lui semble, etc., etc. Donc cette fluidité, en quelque sorte, de la propriété est une condition essentielle du développement économique au sens moderne du terme. Hein. Je ne porte aucun jugement de valeur. Là, j'essaye un peu de décrire le contexte. Et donc, il est bien normal que Marx ait fait, l'analyse qu'il a faite de la Révolution française en termes de bourgeoisie, en disant c'est l'avènement de la classe bourgeoise. Et c'est à partir de là que la classe bourgeoise, va bel et bien pouvoir développer sa puissance, et qu'au fond, la Révolution industrielle va se faire. Tout le 19e siècle va pouvoir se développer à partir de là. Vous connaissez, je l'évoque juste au passage, et parce que ça rapporte tout de même avec notre sujet, les deux critiques qu'opère justement Marx, de la façon justement dont fonctionne la propriété dans la société bourgeoise, les deux critiques en termes d'exploitation et d'aliénation. Je pense que vous connaissez cela, je le rappelle très très rapidement. Donc en fait, il y a une critique, qui est davantage économique, et puis une critique qui est davantage anthropologique. La critique anthropologique, elle est très intéressante parce que finalement, et c'est normal, Marx en tant qu'économiste s'est opposé à l'économie libérale, à l'économie classique, dont donc Locke est un des premiers. Enfin, la critique que fait Marx à travers la notion d'aliénation vient complètement contredire l'argumentation de Locke. Donc c'est assez intéressant, je vais l'évoquer rapidement parce que je vous ai lu un texte et on va voir que la critique de Marx prend complètement le contre-pied. Alors d'abord simplement un mot de l'exploitation, hein, de la critique plus économique de Marx, c'est la fameuse extraction de la plus-value. C'est-à-dire que le travailleur, vous connaissez cela, donc consacre, je dirais, du temps à son travail, bien obligé, et donc il n'y a qu'une partie de ce temps qui est rémunérée, le reste va, je dirais, dans la poche du capitaliste qui, lui, va réinvestir en tant que propriétaire ces montants-là, bon, etc., etc. Donc toute l'analyse que Marx fait, je dirais, du système là, économique bourgeois, en rappelant capitaliste, en analysant, si vous voulez, une faille dans le système, c'est-à-dire la fameuse contradiction entre les modes de production et les rapports de production. C'est-à-dire qu'il annonce la révolution prolétarienne, après la révolution française qui est la révolution bourgeoise, la révolution prolétarienne, la lutte entre les deux classes, par le fait que les modes de production sont détenus le prolétariat qui, à travers sa force de travail, en quelque sorte agit le machinisme, etc., le fait fonctionner, etc., et donc donne sa force de travail. Et puis par ailleurs, il y a une contradiction avec le rapport de production puisque, par contre, le mode de production est détenu par la bourgeoisie. Donc il y a un divorce entre celui qui détient et puis celui qui, en quelque sorte, assume la technique, transformant la nature, etc. Donc là, pour lui, cette contradiction, elle est majeure, et c'est ce qui doit ensuite amener à la révolution prolétarienne, etc. Alors, la deuxième critique que j'évoque rapidement, l'aliénation, je le disais, est intéressante parce qu'elle vient prendre le contre-pied complet de Locke. En l'occurrence, Marx dit, au fond, le travailleur, mais il dit, j'ai apporté un texte, je ne vais pas vous lire en entier, parce qu'il y a d'autres textes importants que je voudrais vous lire. Nous partons d'un fait économique actuel, dit Marx. Nous partons d'un fait économique actuel. Et ça, c'est tiré du manuscrit de 1844. Voilà, c'est-à-dire la situation économique actuelle. Et donc, il dit, le travailleur produit des marchandises. Alors, il produit des marchandises et en produisant des marchandises, en quelque sorte, il s'extériorise dans sa marchandise. C'est ce que dit Locke. C'est-à-dire qu'il met de lui-même dans la marchandise. Et donc, Locke dit, du coup, la marchandise reçoit de l'être du travailleur et donc devient sa propriété. Marx dit complètement l'inverse. Il dit, le travailleur s'extériorisant dans la marchandise, compte tenu du type de travail qu'il exerce, qui est un travail, je dirais, éreintant, débilitant, etc., etc., plus il met de lui-même dans la marchandise, plus il produit donc de marchandises, moins il est lui-même, plus il est volé de lui-même. Et donc, il fait une analyse qui prend complètement à contre-pied Locke et qui démonte en quelque sorte, le point de vue de Locke. C'est-à-dire que le point de vue de Locke est un point de vue très théorique, et donc Marx, en quelque sorte, reprend le rapport du travailleur au bien, mais dans des conditions concrètes de production. Et bien entendu, dans les conditions concrètes de production que sont, par exemple, les fabriques, certaines fabriques du 19e siècle, à raison de 13 heures, 14 heures par jour, travail des enfants ou que sais-je, etc., le principe théorique de Locke n'est pas tellement évident. On voit bien que l'analyse de Marx est plus proche, en quelque sorte, des conditions réelles de production à cette époque que, principe de Locke. Voilà. Deuxième étape dans la réflexion, critique de la propriété. Alors, C'est un de nos principes. Quand il y a quelque chose d'important, eh bien, on fait appel à Rousseau. Et il y a effectivement, donc, chez Rousseau, des choses extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Alors, chaque fois qu'il y a une distinction importante à penser, eh bien, on a intérêt à regarder la façon dont Rousseau l'a pensée, l'a réfléchi. Pour Rousseau, la propriété est un fléau social. Je pense que vous connaissez un des textes que je vais d'ailleurs vous lire dans quelques instants, « Le premier homme qui a planté », etc., etc. Bon. Un texte qui fait partie donc du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Voilà. La propriété est un fléau social, c'est un facteur de dévoiement qui, au fond, explique que la société eh bien, puisse corrompre l'homme. C'est-à-dire que c'est un des facteurs majeurs de dévoiement de l'homme et qui fait, selon Rousseau, que la société corrompt l'homme. Néanmoins, rappelons-nous bien que chez Rousseau, la pensée de Rousseau n'est pas binaire, comme on le croit très souvent. Vous dites, bon, Rousseau oppose la société au bon sauvage et puis on croit qu'on s'arrête là. Non, ça c'est une vision extrêmement, je dirais, réductrice de Rousseau. La pensée de Rousseau, elle est ternaire. C'est-à-dire que Rousseau se sert du bon sauvage, plus précisément de l'état de nature, qui est chez lui une hypothèse qu'il a reprise chez Hobbes, etc., l'hypothèse de ce temps-là pour penser l'état de société, hein, c'est une hypothèse théorique, cet état de nature, il n'est pas du tout daté, jamais aucun de ses auteurs ne dit ça s'est passé à tel moment dans l'histoire, etc. Mais Rousseau se sert de cette hypothèse pour critiquer la société de son temps en vue de refonder la société. Et donc c'est une pensée ternaire. La refondation, c'est le contrat social. Rousseau, sait bien, Rousseau n'est pas bête, d'ailleurs on va le voir dans le texte que je vais vous lire, il sait bien que l'état de société est l'état humain, que l'homme tire de bonnes choses des relations sociales, etc., que la culture, la civilisation sont au prix de la société, etc. Mais par contre, eh bien, la société en quelque sorte de son temps, ou la société telle qu'elle est devenue, est pour lui néfaste, elle dévoie l'homme, elle abîme l'homme, elle le met dans les fers, comme il dit, et donc elle est à refonder, d'où le contrat social. Alors, en fait, donc la mauvaise société naît de la propriété et donc a à son cœur la propriété. En fait, la question est assez difficile chez Rousseau. C'est-à-dire que il y a, je m'arrête vraiment, là je vais prendre un petit moment sur son point de vue, il y a deux hypothèses en quelque sorte successives de dévoiement et Rousseau n'amène la propriété que dans la deuxième hypothèse. Alors, la première, je dirais la première étape en quelque sorte du dévoiement, eh bien, c'est un dévoiement en quelque sorte relationnel qui naît de l'appréciation des hommes. C'est-à-dire à partir du moment où les hommes sont amenés à se comparer et donc en quelque sorte à rentrer dans un jeu de séduction où en quelque sorte, eh bien, on n'est plus soi-même. Mais on joue comme sur une scène, comme sur un théâtre, pour attirer le regard des autres, pour séduire les autres, etc., etc. Donc là, on est bien, et que, par exemple, Rousseau donc était un. Se méfiait beaucoup du théâtre et même, je dirais, à certains égards, considérait que c'était un des spectacles à ne pas conseiller, etc. Tout ce qui était de l'ordre du spectacle, de la mise en scène, pour lui, était tout à fait sujet à caution. Voilà. Parce que c'est une fabrication et donc on n'existe pas à ce moment-là dans l'honnêteté soi-même, dans la franchise, etc., etc. Voilà. Et donc, pour lui, au fond, le processus social qui favorise justement le caractère spectaculaire des relations, la frime entre guillemets, le fait de se mettre en valeur devant les autres pour attirer le désir, le regard, etc. Eh bien tout cela est bel et bien donc un vice, si vous voulez, qui donc un ressort en tous les cas qui favorise justement le dévoiement social. Alors on trouve, si vous voulez, cette réflexion dans la seconde partie donc, du discours sur l'origine de l'inégalité. Cette seconde partie, elle commence par la propriété. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire. C'est extraordinaire quand on lit ça, parce qu'on se dit « bah ouais, c'est vrai, bon, est-ce que ça a existé un jour ?» fut le vrai fondateur de la société civile. Alors, ce premier qui a planté sa propriété, vous voyez, qui a enclos son terrain, etc., et qui a trouvé des gens assez simplets pour le croire, c'est lui qui a créé la société. Et donc, sous-entendu, c'est le début de la fin. Hein. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables. Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus. Si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. On se rappelle de ce que disait Locke tout à l'heure, au début tout est à tous. D'accord ? Voilà, donc Rousseau, lui, en reste là. Mais il y a grande apparence qu'alors les choses en étaient déjà venues au point de ne pouvoir plus durer comme elles étaient. Car cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d'idées antérieures qui n'ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Il fallut faire bien des progrès, acquérir, bien de l'industrie et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge, avant que d'arriver à ce dernier terme de l'état de nature. Donc en quelque sorte, la propriété, c'est le dernier terme de l'état de nature, c'est au moment où ça bascule, quoi. Hein? Voilà. Mais il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé, en quelque sorte, le processus n'a pas commencé en plantant quatre pieux et en mettant du fil barbelé autour, comme sur la prairie américaine. Hein? Reprenons donc les choses de plus haut et tâchons de rassembler sous un seul point de vue cette lente succession d'événements et de connaissances dans leur ordre le plus naturel. Alors là, évidemment, je ne vais pas tout vous lire parce que Rousseau se met à, si vous voulez, à relire en quelque sorte la société, la création de la société, les différentes étapes, etc. Alors, il y a néanmoins, il y a une étape qui est très importante que j'évoquais il y a quelques minutes, qui est l'étape où les hommes, se mettre à briller les uns par rapport aux autres. Et on pourrait se dire, au fond, la propriété est peut-être sortie de là. On s'accoutuma à s'assembler devant les cabanes ou autour d'un grand arbre. Le chant et la danse, vrais enfants de l'amour et du loisir, devinrent l'amusement, ou plutôt l'occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent, devint le plus considéré. Et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et vers le vice en même temps. De ces premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie. Et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence. Donc on voit bien cette dégradation, la séduction, etc., etc., que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je prends un petit peu plus loin. Voilà. Néanmoins, Rousseau ne va pas considérer que cette étape-là est l'étape décisive. C'est-à-dire que cette étape qui est funeste, comme il le dit lui-même, lui semble encore viable, et l'étape de la propriété, qui est l'étape décisive, elle est ultérieure. Et on va la voir maintenant. Ainsi, quoique les hommes fussent devenus moins endurants et que la pitié naturelle eût déjà souffert quelques altérations, cette période du développement des facultés humaines, que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait de pouvoir briller grâce à telle compétence, tel don, etc., tenant un juste milieu entre l'indolence de l'état primitif et la pétulante activité de notre amour propre, donc là on est dans un juste milieu, dut être l'époque la plus heureuse et la plus durable. Donc au fond, Rousseau n'est pas, tant que ça ne dégénère pas en quelque sorte de façon trop démonstrative, c'est une étape qu'il accepte. Plus on y réfléchit, plus on trouve que cet état était le moins sujet aux révolutions, le meilleur à l'homme, et qu'il n'en dut sortir que par un funeste hasard. Et là, ce funeste hasard, c'est l'étape décisive. Qui, pour l'utilité commune, alors je vais y revenir dans quelques instants parce que ça ne va pas dire grand-chose, un funeste hasard, qui pour l'utilité commune eût dû ne jamais arriver. L'exemple des sauvages, qu'on a presque tous trouvé à ce point, semble confirmer que le genre humain était fait pour y rester toujours, que cet état est la véritable jeunesse du monde, et que tous les progrès ultérieurs ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu et en effet vers la décrépitude de l'espèce. Alors qu'est-ce que c'est que ce funeste hasard ? Eh bien, c'est une affaire assez compliquée chez Rousseau, dont, me semble-t-il, il n'a jamais pu se dépêtrer autrement que cela. On le voit, par exemple, dans un autre ouvrage qui s'appelle « Deux essais sur l'origine des langues », où il dit, eh bien, au fond, il y a deux sortes de peuples. Il y a les peuples méridionaux et les peuples nordiques. Les peuples méridionaux, eh bien, vont rester dans cet état heureux de la vie, qui est, certes, une avancée vers cette comparaison les uns par rapport aux autres, mais au fond c'est aussi la fête, c'est aussi bon, etc., etc. Par contre, les peuples nordiques, eh bien, vont répondre à l'utilité liée au climat, la difficulté de vie, etc., et vont là mettre en œuvre, eh bien, toute une série de techniques et toute une série de moyens pour, en quelque sorte, satisfaire leurs besoins, etc. Et pour Rousseau, eh bien, la propriété répond à cela, répond à cette nécessité utilitaire, et non pas, si vous voulez, n'appartient pas à ce monde, si vous voulez, donc, de la comparaison, à ce monde festif, etc., dont il entrevoit une espèce d'équilibre, si vous voulez, entre l'état de nature et puis l'état d'aujourd'hui. Dans l'essai sur l'origine des langues, d'ailleurs, à propos de ce funeste hasard, il le renvoie, il dit, au fond, eh bien, à un moment donné, Dieu a dû incliner l'axe de la terre, imaginez, de son doigt, et donc, inclinant l'axe de la terre, cela a fait que certaines terres, précisément les plus septentrionales, ont quitté les zones agréables à vivre, et que les hommes qui étaient là-dessus, eh bien, n'ont plus pu faire autrement, c'est-à-dire que de mettre en œuvre un certain nombre de techniques pour maîtriser la nature et répondre à leurs besoins, etc. Alors je termine rapidement maintenant mon passage, voilà, qui reprend donc là, justement, donc la propriété, voilà, reprend la propriété. Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou embellir leurs arcs, leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes, etc. Bon, etc., etc. Donc, tant que on en reste là, tout va bien. Ils continuèrent à jouir entre eux des douceurs, d'un commerce indépendant, etc. Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallait arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. Donc voilà, quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du, cette généalogie qui est assez complexe. Au fond, la propriété n'appartient pas à l'ordre de l'amour propre, c'est-à-dire je ne suis pas propriétaire pour briller à l'égard des autres, mais appartient, si vous voulez, à l'exploitation, c'est-à-dire à l'ordre, effectivement, de l'avoir, hein, très clairement chez Rousseau. Et alors, chez Rousseau, on a bien ce jeu de l'avoir et de l'être, c'est-à-dire que c'est l'ordre de l'avoir qui, en quelque sorte, est nocif pour l'homme. Et au contraire, eh bien, l'homme, en quelque sorte, peut se sauver, enfin, en tous les cas, peut s'en sortir. L'issue pour l'homme se trouve du côté de l'être par une rénovation du politique. Il y a une forme d'absolutisation du politique chez Rousseau, c'est évident, en participant à la volonté générale, à l'être de la volonté générale. À partir du moment où ma volonté, eh bien, rentre dans la volonté générale, où en quelque sorte je deviens un citoyen de l'entité politique, eh bien, je suis dans une dimension régénérée de la vie sociale, grâce justement au contrat social, alors que l'ordre de l'avoir, eh bien, est un ordre déchu, qui, en l'occurrence, eh bien, est celui de la propriété, précisément, et donc ne permet pas à l'humanité de s'en tirer. Alors, je voudrais dire un petit mot très rapide d'une filiation avec Rousseau d'un courant politique et économique actuel qu'on appelle la décroissance. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu il y a quelques mois, justement à propos de la décroissance, et en préparant, donc il y a en début d'année, justement le premier mot, la décroissance, j'avais repéré que Lyon est la capitale de la décroissance en France, au sens où un des, je dirais, des politologues les plus avancés sur la question, les plus engagés, etc., Paul Ariès, eh bien, est un professeur lyonnais qui travaille et publie à Lyon, voilà, et qui est très, si vous voulez, qui, en quelque sorte, est très centré sur ces questions-là. Alors, ce qui est, je j'ai un document là, un entretien de Philippe Ariès dans Lyon Capital en décembre 2009 que j'avais mis de côté, où Philippe Ariès affirme donc que pour une rénovation politique, et cela, je dirais, dans le sillage justement du mouvement de la décroissance, il faut miser sur l'extension de la sphère de la gratuité. Que proposez-vous ? Lui demande le journaliste. Je passe très vite, on pourra y revenir dans l'échange dans quelques minutes. Que proposez-vous ? La seule alternative à la barbarie qui vient, dit Paul Ariès, est de miser sur la gratuité, sur la défense et l'extension de la sphère de la gratuité. Nous portons en effet la gratuité chevillée au corps. On y reviendra dans quelques instants, c'est la fin de mon propos. C'est le souvenir du paradis perdu ou du saint maternel. Bon, je laisse à Paul Ariès, je dirais, ses références. Ce sont les relations affectives, amicales, associatives. Ce sont les services publics et les biens communs. Le bon combat aujourd'hui, si on veut que la gauche ait un avenir, est de défendre la sphère de la gratuité. Commençons par exemple par imposer la gratuité des transports en commun urbain. Ce ne peut être cependant la gratuité de n'importe quoi, mais seulement celle du bon usage. Pourquoi paye-t-on son eau potable, même prix, pour faire son ménage ou remplir sa piscine privée ? Pourquoi paye-t-on son électricité ou son transport, le même prix, pour ce que la société considère être une consommation normale ou un gaspillage ? Le législateur saura bien nous inventer des systèmes de prix différents. Trois petits points, etc. Un peu plus loin. Notre société, alors il parle du revenu universel d'existence, ce revenu garanti pourrait être donné en partie en monnaie nationale et en partie en monnaie régionale, etc. Notre société est assez riche pour donner à chacun les moyens de vivre sans aucune contrepartie. On peut espérer que les gens s'investiront alors dans le social et créeront une société avec moins de biens et plus de liens. Moins de biens et plus de liens. Et donc là, je dirais, ce modèle qui est tout à fait, je dirais, dans la filiation de Rousseau, eh bien c'est un modèle pour lequel, en quelque sorte, la régénération de la société passe par le lien, par le contrat social, si vous voulez, pour faire vite, et non pas par le bien, c'est-à-dire par l'avoir. Hein. Et donc là, on a une filiation qui est tout à fait intéressante et qui est d'actualité. Voilà. Gratuité. Gratuité de l'usage et renchérissement du mésusage, prône le politologue Paul Ariès. Ce slogan vise à remettre le citoyen et l'usager au cœur de la société et à faire crever le consommateur, entre guillemets. Voilà. Par exemple, faire sa vaisselle serait gratuit et remplir sa piscine coûterait très cher. Voilà, quelques mots sur Philippe Ariès. Troisième et dernier point, la gratuité incognito de l'être. On y reviendra après si vous le voulez, c'est pas mal. La gratuité incognito de l'être. Troisième point, si vous voulez, pour en quelque sorte tâcher de situer la gratuité peut-être à un niveau plus essentiel que celle où on l'a trouvée au début dans l'introduction. Dont on pressent bien, par exemple, avec les analyses de Rousseau, avec par exemple la reprise d'Ariès, etc., que effectivement, elle correspond, elle renvoie quelque chose d'essentiel en l'homme. Il existe une sphère de la gratuité dans la vie humaine, qui est celle du don. Je vais directement au but pour terminer rapidement, qui est celle du don, le cadeau. Le cadeau a été analysé par bon nombre d'anthropologues, par bon nombre de philosophes, etc., comme effectivement le contraire de l'échange. Les anthropologues disent une société, eh bien, c'est un tissu d'échange, enfin, de tissu social, parce que précisément, tant qu'il n'y a que des individus, c'est pas une société, c'est une masse, ce sont des électrons libres. Ce qui fait la société, c'est un tissu, c'est un tissage, donc ce sont des relations, et ces relations, ce sont des échanges. Lévi-Strauss dit il y a trois grandes sortes d'échanges, l'échange des mots, langage, l'échange des biens, on vient d'en parler, l'échange des femmes, dit Lévi-Strauss. C'est consternant, n'est-ce pas ? Je suis désolé de dire cela devant une assemblée constituée largement de femmes, mais voilà, Lévi-Strauss dit ça. Mais vous voyez tout de suite à quoi ça veut faire référence, ça renvoie dans l'ensemble des sociétés à toutes les traditions, tous les rituels d'alliance entre familles qui, à partir de l'interdit de l'inceste, eh bien, font que les familles s'ouvrent les unes sur les autres et donc tissent, de ce point de vue-là, font du tissu social à travers, en particulier, la constitution, le lien conjugal qui peut prendre toutes sortes de formes dans les différents modèles familiaux, dans les diverses cultures, etc. Eh bien, ces échanges donc sont constitués d'un aller et d'un retour. Échange des mots, il y a des retours, échange de biens, retour financier, bon, etc., etc. Le cadeau, eh bien, n'est pas un échange avec un retour, il est de ce point de vue-là transitif, c'est-à-dire que quand je fais un cadeau, je n'attends pas un retour, je ne fais pas un cadeau à condition qu'il y ait un retour, à condition d'être payé en retour, etc., etc. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, le cadeau, eh bien, est un exemple, au fond, relativement large, d'un domaine d'existence humaine où, finalement, la relation transitive sans retour direct ou sans esprit de retour, eh bien, est essentiel, n'est pas marginal, peut-être marginal sur le plan économique, mais par contre est strictement essentiel, est essentiel du point de vue de l'humanisation de l'homme, du point de vue de notre humanité. Et donc, ce sont, je dirais, l'ensemble des relations humaines qui me mettent en relation étroite, profonde à l'autre, en particulier en tant que elle me dévoue à l'autre, c'est-à-dire où je fais don d'une partie de moi-même à l'autre. Les relations d'amour, les relations d'amitié, les relations éducatives, au fond, je dirais, qui n'est pas le plus dans la gratuité, sinon les parents. C'est-à-dire qu'au fond, éduquer ses enfants, c'est peut-être la relation, si vous voulez, le meilleur paradigme de la gratuité, au sens où peut-être que dans l'amour, et peut-être aussi dans l'amitié, il faut une réciprocité. Parce que c'est difficile d'aimer longtemps s'il n'y a pas de réciprocité du tout, n'est-ce pas? Voilà. Bon, l'amour malheureux, bon, et puis voilà. Mais au fond, la relation éducative, eh bien, cette relation de gratuité, je ne choisis pas mes enfants, n'est-ce pas? Les parents se dévouent à un point aux enfants que, effectivement, ils n'attendent pas en retour toute une série de choses, de contreparties, ce qu'on pourrait imaginer, etc. D'ailleurs, précisément, une mauvaise éducation, c'est une éducation qui voudrait être payée de retour, ou plus précisément, eh bien, correspond à un projet sur un enfant. L'enfant, en réalisant ensuite ce projet, eh bien, paye les parents en retour. On a vu dernièrement un très beau film dans le cadre du Ciné-Club Saint-Paris, là, donc Still Walking, un film qui est sorti récemment d'un japonais, d'un jeune cinéaste japonais, qui raconte l'histoire terrible d'une famille où le fils aîné destiné à reprendre la clinique familiale décède. La famille est complètement bloquée parce que précisément il y avait un projet familial parental en tous les cas sur cet enfant, et comme l'enfant n'a pas réalisé en quelque sorte le projet parental, et bien tout le reste de la famille est complètement bloqué, et donc les autres enfants sont oubliés en tant que tels. Voilà, donc on voit bien comment est-ce que lorsqu'une relation éducative n'est pas fécondée par la gratuité, en l'occurrence, elle tourne court et elle tourne à l'inverse de son sens, quoi. Elle tourne à contresens, hein. Voilà. Et donc là, de ce point de vue-là, du point de vue de ces relations, précisément, on n'est plus dans l'ordre de l'avoir, mais dans l'ordre de l'être, hein, c'est-à-dire au fond de ce qui nous fait exister. C'est-à-dire que la gratuité, c'est certainement donc la condition des relations humaines les plus essentielles qui nous font exister dans notre humanité. L'économie est bien nécessaire, est bien souhaitable, etc. Mais on le voit bien, tout ne peut pas, toutes les relations, et sans doute les relations les plus essentielles que nous font exister, ne peuvent pas fonctionner à l'aune de l'économie. C'est-à-dire à l'aune, en l'occurrence, si vous voulez, donc de contrepartie financière, etc. Voilà. Donc, je vais en rester là. Je vais apporter d'autres références, bien entendu, des références très intéressantes. Mais par exemple, à ce propos-là, si certains d'entre vous veulent creuser cela, il y a une référence très très bonne. Vous reconnaissez peut-être certains d'entre vous. Donc, mais je crois que au Collège supérieur, on l'a plus, hein, ce document. Je crois qu'il est épuisé, hein, nulle part. Bon, alors je vais
il en reste 4 exemplaires.
Bon, donc le mien, je vais le serrer bien fort en sortant de la salle pour éviter de me le faire voler. Celui-là, je ne donnerai pas. Je ne vendrai même pas. Voilà. Et donc, par exemple, dans Transmettre, justement, vous avez, je dirais, un très beau figuratif sur cette page. Donc, c'est les actes d'un des colloques du Collège supérieur, Transmettre, donc, voilà, il y a quelques années, avec la participation de Michel Serres. Il y a quelque chose de très beau ici, c'est, vous savez, pour représenter la transmission. Et que, justement, ça n'est pas un échange au sens où il y a une contrepartie, un retour, mais au fond, il y a bien une fécondité, néanmoins, une fécondité, c'est-à-dire quand on parle, si vous voulez, d'une relation transitive, ça ne veut pas dire qu'elle est fermée sur elle-même, qu'elle est unilatérale, qu'elle est à sens unique, elle est féconde aussi parce que, par ailleurs, eh bien, elle se transmet, si vous voulez, ensuite de génération en génération. C'est-à-dire que les parents, en quelque sorte, éduquent des enfants qui, à leur tour, deviendront parents, etc. etc. hein. Et vous avez un très bel article sur cette question, c'est-à-dire qui va distinguer échange et transmission de Philippe Soual, l'intransmissible, donc de Philippe Soual, donc là, dans ce document-là, et qui est extrêmement bien fait, donc j'avais prévu de vous en lire 2 pages, mais bon, c'est trop tard, c'est comme ça. Voilà. Nous avons 10 minutes, et c'est bien nécessaire pour échanger, pour revenir sur certains points. S'il n'y en a pas, je vous lis Philippe Soual. Oui,
oui.
Ah, sûrement, parce que bon, il y a des tas de raccourcis,
oui, oui.
Tas de caricatures.
Ouais, j'avoue que j'aime énormément Rousseau en tant que romancier. Les Confessions sont pour moi certainement les plus grands livres de la littérature française. Mais quand il fait de l'économie ou de la prospective d'explication, là, il me fait un petit peu rigoler, quoi, sincèrement.
Allez.
Et j'avoue que je ne crois pas du tout à ce genre d'explication. Parce que, par exemple, là, il parle de la propriété comme étant un peu à l'origine de quelque chose. C'est pas la propriété qui est à l'origine, c'est le travail. C'est le travail qui amène la propriété. Et à quoi sert la propriété? Elle sert tout simplement à mettre le travail au conserve, c'est-à-dire de façon à pouvoir conserver le travail qui a été effectué, pourtant, eh bien, ça permet de le conserver, donc de l'utiliser un peu comme des briques, et de pouvoir investir. Et c'est l'investissement qui est l'origine du progrès. Donc oui, il y a une sorte de filiation que, à mon avis, ne voit pas Rousseau. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans Rousseau. Mais bon.
Oui, oui.
Donc, ce qui paraît... Alors, évidemment. Et donc, on a, à contrario, et je vois très bien ce que dit Paul Ariès, moi, j'ai l'impression de le voir, on a, à contrario, on voit très bien que si on suivait Rousseau et surtout Paul Ariès, eh bien on arriverait en effet à la décroissance, donc c'est clair, et donc à un retour à l'état de nature de Rousseau. Qui serait assez inquiétant.
Non, c'est pas le cas, parce que justement, c'est pas le cas, parce que la pensée de Rousseau est pas binaire, quand même. C'est, bon, je vais tâcher de défendre un petit peu Rousseau, voilà, c'est très, enfin, votre remarque, là, allons-y, hein, c'est très bien, allez-y, continuez.
Donc, ce qui fait que là, je suis assez opposé à ça, parce que ça me paraît être une catastrophe de revenir à l'état de nature.
Oui, en fait. D'accord. Même Rousseau ne veut pas y revenir, donc du coup, au moins sur ce point-là, on sera d'accord. Parce que Rousseau, ce qu'il vise, c'est le contrat social, hein, c'est l'état de société, etc. Mais un état régénéré. Donc voilà.
Mais c'est pas le contrat social qui, à mon avis, fait le progrès, c'est le fait qu'on a pu investir, c'est-à-dire, on a commencé par travailler, on a obtenu une propriété, mais on a obtenu une propriété pas pour briller, etc., simplement pour pouvoir s'en servir, pour investir, et pour continuer à progresser.
Oui.
C'est l'objectif, il me paraît assez différent de celui que donne Rousseau.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que je doute beaucoup de la gratuité. J'imagine, pour moi, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Vous parliez de l'exemple, évidemment, classique des parents qui élèvent leurs enfants gratuitement, mais pas du tout. D'ailleurs, statistiquement, on le voit très bien. Pourquoi les pays qui ont une forte natalité sont des pays pauvres? Tout simplement parce que avoir des enfants, c'est la seule manière de pouvoir vivre plus vieux. Parce que c'est les enfants qui vous prennent en charge une fois que vous êtes trop âgé pour travailler. Donc, statistiquement, c'est imparable. On le constate partout. Et puis, dès que les gens deviennent plus riches, ils sont moins pauvres.
Oui, ben là.
Non, donc,
oui.
Parce qu'ils disent qu'ils en ont moins besoin, etc. Donc, si vous voulez, là, on voit bien que l'éducation, en tout cas telle qu'on le conçoit, et au départ, n'est pas gratuite du tout. Il n'y a pas de gratuité d'éducation. Même si l'amour, lui, peut être gratuit, on a, et encore ça peut se discuter dans ce sens-là, on n'a pas une réelle gratuité. Mais est-ce que c'est la gratuité qui est recherchée, ce qui est important? Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus noble de, pour moi, enfin, il me semble, de quelque chose qui serait obtenu grâce à un effort, grâce à un travail, pour obtenir un résultat. Le résultat, c'est que j'ai des enfants qui vont pouvoir, enfin du moins j'ai l'espérance quand j'éduque mes enfants, qu'ils vont pouvoir progresser et me faire progresser quand ils sont adultes. Donc ce n'est pas gratuit l'éducation que je donne à mes enfants.
Oui, moi sur ce point-là, je ne serais absolument pas d'accord avec vous, mais c'est très bien comme ça, heureusement qu'on n'est pas d'accord, sinon on ne réfléchirait pas. Si vous voulez, je pense et je l'ai justifié qu'il y a une dimension humaine qui relève véritablement de la gratuité. Et je crois que justement, lorsque, par exemple, dans l'éducation, le calcul ou l'intérêt ou que sais-je, est en place, c'est symptomatique d'une relation qui est ambiguë, etc. Alors, de toute façon, toutes les relations humaines sont ambiguës et la pure gratuité n'existe pas. Mais néanmoins, on peut s'y efforcer. Parce que entre, justement, j'évoquais, parce que justement, j'ai revu ce film récemment, je l'ai présenté dans un ciné-club très récemment, on voit bien, ça arrive relativement peu souvent maintenant, parce que c'est plutôt, je dirais, l'absence d'éducation qui prime plutôt que des éducations hyper volontaristes, etc. Mais néanmoins, on sait bien ce que des éducations, objectivantes, des éducations, si vous voulez, qui visent à enfermer un enfant dans un projet, à le conformer, je dirais, à ce que l'on souhaite, etc., eh bien, ne sont pas bonnes. Parce que précisément, la finalité de l'éducation, c'est l'autonomie de l'enfant, c'est qu'il s'assume en tant qu'adulte, c'est qu'ensuite, eh bien, il décide pour sa propre existence, etc. Et donc, une éducation qui englobe, qui enferme un enfant dans un projet, eh bien, est une éducation qui ne correspond pas à ce qu'il y a d'essentiel dans l'enfant et ensuite dans le futur adulte. Donc il me semble clairement, même si toute relation, on est bien d'accord, reste toujours ambiguë, mais qu'il y a des relations qui relèvent de la gratuité et qu'il est souhaitable d'être capable de les vivre dans cette gratuité. Je reviens quelques instants sur l'analyse de Rousseau, en deux mots. Deux mots sur l'analyse de Rousseau. Le premier, c'est que le point qui me paraît intéressant dans l'analyse de Rousseau, c'est que, effectivement, il ne fait pas sortir la propriété du travail, il la fait sortir en quelque sorte de la spoliation, celui qui a planté, etc., etc. Alors ça, vous pouvez dire, c'est pas du tout réaliste, etc. Reste que, il y a quand même, de ce point de vue-là, un éclairage du monde dans lequel nous vivons, et qui a toujours été le monde, et qui sera toujours le monde. En l'occurrence, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, eh bien, est une société, la société française, je dirais, de 2011, est une société problématique de ce point de vue-là, parce que c'est une société où l'avoir, eh bien, est réparti et transmissible de telle manière que, en l'occurrence, eh bien, l'équité et par ailleurs la dynamique économique et sociale, on devient problématique. C'est-à-dire que là, ce qui me semble intéressant quand même dans l'analyse de Rousseau, c'est qu'il montre bien que la propriété, c'est pas uniquement le fruit du travail. Que, en l'occurrence, à travers la transmission, à travers toutes sortes d'acquisitions qui ne sont pas forcément de l'ordre du travail, etc., que la propriété, eh bien, est en fait un moyen de pouvoir, un moyen de puissance, et que, du coup, eh bien, dans la société, elle représente un élément, je dirais, de gauchissement des relations sociales et du contrat social. Voilà. Oui, Jean-Noël, allez-y.
Oui, je crois qu'il y a deux sens du mot gratuit, ou alors il faudrait en supprimer un des deux. Parce que votre exposé à la fin traduit une gratuité de l'être, et je crois que c'est très juste. Les gratuits que vous évoquez au début, les journaux, le Vélove, etc., c'est sans doute pas le mot juste gratuit. Moi je me demande, mais alors je vous propose ça comme hypothèse, si plutôt que gratuité, on ne devrait pas parler de banalité au sens où on parlait du faux banal ou du lavoir.
C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un retour à une autre forme de, d'appropriation qui était l'appropriation collective? Vous avez évoqué l'Ancien Régime avant la Révolution. L'Ancien Régime avant la Révolution était un régime de propriété collective, très largement.
Avec en particulier les communs, etc.
Avec les communs, avec les droits de pâturage, les droits de passage, les droits de chasse, les droits de tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas un unique propriétaire sur un seul bien, mais il y avait des droits différents et il y avait un certain nombre de droits qui étaient partagés. Alors, est-ce que c'est comparable? Je ne sais pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait parler plutôt de gratuité, de banalité ou de nouvelle collectivisation devant le coût considérable des productions?
Moi, ça pourrait tout à fait être une hypothèse, mais il me semble pas. Donc là, on revient au début et en particulier à l'analyse justement de c'est gratuit, etc. Parce que aujourd'hui, peut-être que ça évoluera dans un autre sens, hein, voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même en pointe, c'est justement, ce sont des stratégies que l'on voit par exemple sur Internet, etc. Ce sont quand même des stratégies extrêmement pointues qui sont très individualisantes. En particulier parce qu'elles permettent justement d'analyser je dirais les utilisateurs de façon extrêmement précise, etc. Et donc je crois qu'on est quand même assez loin dans ce qui aujourd'hui est en pointe et ce qui est le plus moteur sur le plan économique, social, etc. De ce point de vue-là, il faut certainement distinguer ce qui relève, je dirais par exemple de certaines radios libres menées par, je dirais, des gens qui ont une mentalité très associative, et puis par contre ceux qui nous semblent gratuits, mais qui n'est finalement pas du tout gratuit et qui même correspond à une stratégie marketing et commerciale très très pointue, quoi, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, hein, me semble-t-il, mais bon, je suis pas forcément très, voilà. Oui, allez-y.
Qu'est-ce que vous entendez clairement par gratuit? Une vraie définition
sur bien. C'est, si vous voulez, le fait que il n'y ait pas, donc, dans le cadre d'un échange, d'une relation, dans le cadre d'une relation, qu'il n'y ait pas de contrepartie constitutive de l'échange ou de la relation. Et donc, de ce point de vue-là, sans cette contrepartie, à ce moment-là, il n'y a pas d'échange possible, etc. Voilà. Hein, je crois que c'est une façon de une définition rapide, si vous voulez, qui renvoie un peu à toute la. Et justement, il me semble que il y a bien, donc sur le plan humain, des relations qui relèvent de cela. Comme justement, je termine parce qu'il est quasiment l'heure, mais du coup je ne résiste pas, parce que j'en ai parlé une fois, mais je ne résiste pas à vous lire un tout petit passage à propos justement de cette gratuité en quelque sorte totale qui relève là de l'abnégation, du sacrifice, etc., d'un être pour un autre. Je vous lis 5 lignes, 6 lignes d'Albert Camus, le premier homme, de ses notes où il parle de sa mère. Il parle de sa mère. Commencez la dernière partie par cette image. C'est une note de rédaction. 2. L'âne aveugle qui patiemment, pendant des années, tourne autour de la noria, endurant les coups, la nature féroce, le soleil, les mouches, endurant encore, et de cette lente avancée en rond, apparemment stérile, monotone, douloureuse, les eaux jaillissent inlassablement. L'image de la noria incroyable, et qu'en fait Camus donc adapte à sa mère. C'est-à-dire, sa mère, c'est l'âme qui fait tourner la noria et l'eau claire qui jaillit. Donc c'est en l'occurrence le génie de Camus, c'est le prix Nobel, etc. 3 pages avant, Camus dit la chose suivante. Sa mère, alors dans toutes ses notes, il parle de « il », parce que c'est le héros en quelque sorte du roman, mais c'est lui. Sa mère, c'est le Christ. Donc dit Camus dans ses pages, dont vous savez, on les a retrouvées dans sa sacoche donc lors de l'accident de voiture, c'était son dernier roman qui n'a pas été corrigé, etc. Il y a toutes ces notes de lecture. Vous avez d'autres passages extraordinaires de ce point de vue-là. Et alors Camus, c'est sa prise de conscience dans cet ouvrage, son dernier roman, que au fond, il doit enfin, si vous voulez, il rapporte tout à sa mère, qui, il faut lire le roman pour voir ce que signifie un sacrifice, effectivement, c'est complètement sacrifié pour ses deux, je dirais, ses deux fils, etc. Voilà. Et donc, voilà, enfin, là, on a une image, justement, de cette espèce de gratuité qui est presque aveugle, qui relève de la négation, etc., enfin, qu'on peut même trouver monstrueuse, quoi, en quelque sorte, l'âme qui fait tourner la noria, etc. Oui ? Oui, allez-y. Allez-y.
Je me demandais pourquoi les philosophes j'avais aussi peur de l'économique et de l'argent. Parce que je vous ai écouté depuis le début, finalement l'opinard, c'est la relation gratuite. C'est ce que vous avez dit.
Oui.
Entre parenthèses, on a quand même payé avant de rentrer ici. Hein. Mais est-ce que vous n'êtes pas traumatisé, et on voit à travers les différents exemples que vous avez cités, par le problème de l'économique et de l'argent, qui a priori vous paraît impur. Alors que c'est quand même la base de la relation sociale.
Oui. Alors, moi, personnellement, pas du tout. Je me permets de vous dire, moi, personnellement, pas du tout. Donc, voilà. Par contre, en fait, on est dans une société de marchandisation. C'est-à-dire où, en l'occurrence, eh bien, on a toujours, toujours plus...
Des relations fondées sur un échange...
Oui, oui. Des relations fondées... Bien sûr. Tout à fait. Mais par contre, la marchandisation, ça veut dire quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire le fait qu'il y a toujours davantage, si vous voulez, de domaines qui relèvent de cette dimension-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais voilà, est-ce que tout... Pardon ? Non, 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 je n'ai pas du tout dit. Non, non, j'ai pas. Non, non, je l'ai absolument pas. Non, non. Par contre, la question, c'est de savoir si est-ce que toutes les relations doivent relever de cela ? Effectivement, l'amour peut relever de cela. Il suffit de taper sur Internet et vous aurez X propositions de magnifiques minettes ou de magnifiques beaux gosses, etc. Si vous voulez, avec service payant à la clé, etc. Et est-ce que, je dirais, toutes les relations humaines, en quelque sorte, sont susceptibles de relever d'un échange marchand ? J'ai rien contre l'échange marchand. Je me permets de vous dire, je serais tout à fait prêt à en parler avec vous. Voilà, c'est pas du tout, je suis pas du... Voilà. Par contre, ces exposés sont toujours de l'ordre un peu de la caricature, parce qu'il faut, en l'espace d'une heure et demie, voilà, faire avancer les choses, etc. Donc il y a toujours, on force le trait, etc. Le trait qu'il fallait forcer ce soir, c'est de montrer que finalement, ce qu'on appelle les gratuits, c'est pas gratuit, mais que par contre, eh bien, la gratuité se loge sans doute ailleurs. C'est-à-dire dans l'ordre de l'être, moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, dans l'ordre de l'être et non pas dans l'ordre de l'avoir, ce sont deux domaines de l'existence humaine qui s'interpénètrent en grande partie, on est bien d'accord, les choses se distinguent intellectuellement et pas dans la vie. Mais par contre, précisément, je ne suis pas sûr qu'on puisse régler la totalité des questions de l'être, si vous voulez, à travers des si vous voulez, le domaine de l'avoir, etc.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de relation sans échange. Même une relation spirituelle peut être enrichissante, excusez-moi dans tous les termes.
Mais... Oui, oui, tout à fait. Mais oui. Bien sûr, mais c'est pas, je dirais, lorsque vous êtes avec un ami, vous ne comptez pas, vous n'allez pas compter en quelque sorte les minutes que vous passez avec lui, les cadeaux que vous lui faites, le temps que vous lui consacrez. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, si vous voulez, dans un échange calibré en référence à une contrepartie qui définit justement cet échange. Alors que justement, c'est tout à fait normal et tout à fait louable, il n'y a rien d'autre à dire, dans le domaine économique, là, je dirais que la relation, eh bien, elle est calibrée par rapport à la contrepartie. C'est-à-dire que si vous êtes payé tant, vous ne pouvez pas passer plus de temps à faire quelque chose.
Est-ce que celui qui fait un cadeau ne se fait finalement pas plus plaisir parfois que celui qui le reçoit ?
Oui, tout à fait, mais à ce moment-là, enfin, si vous voulez, c'est le retentissement de l'émotion, de la psychologie, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est une contrepartie, parce que ça ne... Enfin, bon, je dirais... Voilà. Ça fait partie de l'épanouissement de la personne, etc. Voilà. Hein. Mais bon, très, très directement, et j'en suis désolé si je vous ai donné cette impression-là, c'est certes que j'ai forcé le trait, mais l'économie a toute sa place. La question, c'est de savoir si elle doit avoir toute la place. Ce n'est pas exactement la même chose. Voilà.
Le prochain rendez-vous, c'est le 22 mars, avec le mot zen, puisque j'avais...